franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance de psychanalyse.
Mais ça va pas la tête.
Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiste à penser.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis un zinzin. Je suis un zinzin.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça va pas la tête, une émission réalisée par François Audouin, préparée par Agathe Le Taillandier et Lilith Sahakian avec l'aide de Liane Sylvestre. Dans notre beau pays cartésien, rationaliste et ordonné, la philosophie de Spinoza reste assez méconnue. On retient généralement de Spinoza une vie en butte avec les autorités religieuses de son temps et son métier de polisseur de verre exercé jusqu'à la fin de sa vie. On oublie parfois que ce bon vieux Baruch fut un penseur qui place les sentiments, la joie d'exister, la critique des passions tristes au cœur de sa philosophie. Une philosophie parfaitement adaptée à notre époque maussade, déprimée et anxiogène. Nous dirons nos invités, nous célébrons ce matin la joie avec ce bon vieux Spinoza. Et puis nous ferons une lecture spinozienne de deux œuvres de fiction britannique, Un chant de Noël de Dickens et son fameux personnage Scrooge et Servitude humaine de Somerset Maugham, Somerset Maugham pour les initiés.
France Inter, Ali Rebbi.
Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Ça va pas la tête.
J'ai bien des conversations avec le père Nicolai, tout de noir vêtu avec sa barbe assortie. Très longtemps je l'avais pris pour une veuve italienne.
Chaque action a une cause. Si l'univers existe, c'est qu'il y a une cause. Et comme c'est Dieu qui a créé l'univers, Dieu existe.
Mais Spinoza ne croyait pas à la Sainte Trinité.
Spinoza était juif.
Qu'est-ce que c'est qu'un juif?
Tu n'as jamais vu de juif? Tiens, j'ai des gravures, regarde. Voilà des juifs.
Non, c'est des histoires. Tous les juifs font des cornes?
Non, ceux-là, ce sont des juifs russes. Les juifs allemands, eux, ont des rayures.
Un extrait de Guerre et amour de Woody Allen en 1975, une libre adaptation de Guerre et paix. Bonjour Balthazar Thomas.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, photographe, agrégé de philosophie. Vous avez publié Être heureux avec Spinoza chez Erol dans la collection Vivre en philosophie que vous avez fondée et que vous dirigez. Spinoza est notamment connu pour son prétendu athéisme, son excommunication, l'antisémitisme dont il a fait l'objet. On vient de l'entendre dans l'extrait de Guerre et amour de Woody Allen. Spinoza est né à Amsterdam en 1632 dans une famille juive portugaise d'origine espagnole qui a fui l'Inquisition. Il est mort à La Haye en 1677 après avoir vécu une vie de philosophe et de polisseur de rêves. Mais Balthazar Thomas, comment présenter la philosophie de Spinoza à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ou qui aurait oublié ses cours de terminale, comme Frédéric, une auditrice rencontrée ce week-end sur la plage d'Étretat, qui me disait qu'elle avait totalement oublié ce que représentait la philosophie de Spinoza. Que lui dire ?
En général, ce dont se souviennent des gens, c'est que Spinoza serait un genre de panthéisme. Alors c'est pas exactement la même chose. Le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est un peu partout, hein, qui se retrouve derrière un buisson, dans un petit étang, dans une fleur. Ce n'est pas ce que dit Spinoza, mais l'idée de Spinoza, c'est qu'en fait, tout ce qui existe est divin. Donc Dieu, c'est la totalité de ce qui existe. Et pour arriver à cette conclusion, il mène un raisonnement extrêmement rigoureux, logique. En fait, il part de la notion de Dieu qui scelle un peu de toutes les religions. Et il montre que le Dieu auquel croient les juifs, les chrétiens, les musulmans, est un Dieu contradictoire, illogique, impossible. Et que si on pense jusqu'au bout de cette conclusion, on arrive à l'idée que Dieu, c'est la nature ou l'univers dans sa totalité. Et que donc nous tous, mais aussi notre chat, et c'est notre chat et ses croquettes font partie de Dieu. Nous sommes tous une petite partie du puzzle divin.
Et ça, c'est la principale innovation philosophique de Spinoza ?
Il y en a beaucoup, mais je dirais que c'est celle qui frappe le plus les esprits. Je pense que la première fois, j'avais peut-être 15 ans, j'avais lu une histoire de la philosophie vulgarisée, je crois, par un certain Will Durand. Et puis il y avait un chapitre sur Spinoza et je me suis dit bah tiens c'est ça ma philosophie alors que je ne connaissais rien de la philosophie. Mais ça c'est disons l'aspect le plus spectaculaire. Le deuxième aspect je dirais le plus important et en fait qui dont on parle le plus aujourd'hui, le plus actuel, concerne le rôle des émotions non seulement dans la vie humaine mais aussi dans l'intelligence et la raison humaine et le rapport du corps et de l'esprit où Spinoza aujourd'hui devient un peu le modèle des neuroscientifiques pour penser le rapport entre le cerveau et l'esprit.
Balthazar Thomas, pourquoi Spinoza est-il pour vous un antidote à notre époque maussade, dépressive et anxiogène ?
Je ne sais pas si notre époque est particulièrement plus maussade et anxiogène que d'autres. Peut-être on a du mal un peu à se souvenir des angoisses d'autres époques qui étaient peut-être pires que la nôtre. Spinoza est un antidote, je dirais, contre toutes les formes de superstition. C'est une pensée extrêmement logique, dure, aride, comme on vient de le dire.
Hors antenne.
Et très très courageuse, et il y a un effet libérateur dans ce courage un peu rêche, c'est très simple aussi, hein, ça paraît très compliqué, et en réalité la philosophie de Spinoza est une philosophie très simple, tellement elle est logique, tellement elle est taillée, un peu comme une machette qui taille autour toute cette végétation de préjugés, de superstitions qui nous habite toujours.
Vous avez fait un lapsus sur Nietzsche, mais il existe des ponts évidemment entre Spinoza et Nietzsche.
C'est oui, tout à fait. Spinoza est un penseur que Nietzsche appréciait. Il y a un fameux texte où il récite les 5 points en commun avec Nietzsche. Alors Nietzsche le critiquait sur d'autres points. Il y a des différences importantes entre Nietzsche et Spinoza, mais quand même, il y a une parenté.
Ce qui les rassemble, c'est notamment la joie.
Oui, sauf que pour Nietzsche, la souffrance a aussi du bon. Ce que Spinoza n'accepte pas.
Bonjour Alain Guyard.
Bonjour Ali.
Vous allez bien ?
Bah très bien, je vous remercie.
Écrivain, philosophe en duplex de France Bleu Périgueux, vous avez bien de la chance d'être dans le Périgord. Vous avez publié aux éditions du Dilettante 33 leçons de philosophie pour et par les mauvais garçons. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Spinoza, qui avait pour modeste ambition d'assurer le bonheur de l'humanité ?
Bah écoutez, je crois que ce qui est déjà stupéfiant quand on tombe dans un bouquin de Spinoza, c'est que on est face à quelque chose qui fait vraiment penser à une écriture mathématique. Et ça, au premier regard, ça terrorise et ça fait absolument peur parce que il y a pas du tout de fioriture ou de littérature ou une complaisance dans le style. C'est vraiment quelque chose qui est avec des facettes comme celle d'un diamant. Et à première vue, ça peut faire peur, mais c'est vrai qu'ensuite, on a l'impression de lire une règle du jeu. Et vous savez, quand on était môme et que des fois on tombait comme ça sur des jeux où il y avait quelques cartes et puis des règles détaillées d'article en article, et au fur et à mesure que la lecture se faisait, peu à peu on rentrait dans ce jeu. Et il me semble que le travail de Spinoza est un peu de ce genre-là. Au début, on lit ce bouquin qui peut paraître très rébarbatif, bien sûr je pense à l'éthique, et au fur et à mesure qu'on rentre à l'intérieur, on découvre les règles du jeu, mais les règles du jeu de la vie, j'ai presque envie de dire. Et de la même manière que lorsque l'on joue, on se laisse porter par la joie, parce que je crois que c'est le mot-clé aujourd'hui, et ben, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'éthique de Spinoza, mais alors effectivement, il faut quand même rentrer au marteau-piqueur, quoi, hein, et ben, on va s'initier peu à peu au fait d'exister, mais exister sous les modalités même de la joie. C'est-à-dire l'existence et la joie, non seulement sont réconciliables, mais au fond, c'est la même chose. Et c'est ça qui est absolument, absolument bonnard, si vous voulez, quand vous rentrez dans Spinoza, c'est qu'une fois que vous êtes vraiment immergé dans le truc, et ben vous comprenez cela, que la joie elle est presque notre destin, plus encore qu'une promesse.
Si je vous comprends bien, l'œuvre de Spinoza, mais il faut prendre le temps de la déchiffrer, de la déguster très lentement comme un bon vieux rhum, hein.
Ouais, c'est pas mal ça comme idée, même si à 9h du matin, ça ferait un petit peu violent, si vous voulez, le rhum vieux. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire on est trop habitué, effectivement, à un mode d'écriture qui fait un peu les putasseries avec nous, qui doit tout de suite nous parler. Quand vous rentrez dans Spinoza, il faut effectivement un peu d'abnégation, mais très vite, vous allez voir que vous allez avoir en récompense de cette abnégation une réelle jouissance, la jouissance... Ou alors, j'ai pris l'exemple de la règle du jeu, je pourrais prendre aussi l'exemple du mode d'emploi. Des fois, vous avez une espèce de bitonio chez vous, vous avez acheté, là, c'est un mixeur robot qui vous fait tout. Manque de peau, le mode d'emploi est écrit en coréen, traduit en anglais, puis ensuite traduit en français. Alors, vous cassez la tête dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes, et au fur et à mesure que vous rentrez dedans, peu à peu, vous commencez à comprendre toutes les recettes qui sont possibles lorsque vous avez saisi un peu l'art des combinatoires. Et après, ben, vous pourléchez les badigouins, c'est l'idée des bonnes recettes que vous allez pouvoir improviser avec le mixeur magique. Bah, c'est un peu ça. Donc, il faut un peu de temps pour rentrer dedans, mais j'aime autant vous dire que c'est un peu comme la piscine. Au début, elle est froide une fois qu'on est dedans, je vous assure, elle est trop bonne.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du magazine Lire. À la une en ce moment, très vite.
À la une, les 50 livres pour votre été, puisque l'été n'est pas encore achevé.
Julien Bisson, vous allez chausser les lunettes de Spinoza pour lire deux œuvres britanniques. Un chant de Noël de Dickens et Servitude humaine de Somerset Maugham, hein, quand on est chic comme vous, Julien Bisson.
Oui, deux œuvres. Vous savez, à l'heure où Christian Grey triomphe dans les librairies, je vais vous parler de deux autres œuvres qui font voisiner, on va dire, masochisme et félicité.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Duncan sur France Inter.
Non mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebbi.
Un vrai psychopathe celui-là.
Ça va pas la tête.
9h23 sur France Inter et nous célébrons ce matin la joie avec ce bon vieux Spinoza en compagnie des philosophes Balthazar Thomas et Alain Guyard et du journaliste Julien Bisson.
Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Hakuna Matata. Matata.
Hakuna Matata, un hymne à la joie populaire immortalisé dans Le Roi Lion. Balthazar Thomas, nous reviendrons largement sur ce qu'est la joie chez Spinoza, mais la philosophie de la joie peut agacer. Les médias, la publicité nous exhortent à la joie. Une joie obligatoire, survendue par les gourous du développement personnel.
Certainement, je trouve ça totalement agaçant, et même je dirais que c'est un aspect de Spinoza qui m'agace un peu. Parce que la joie obligatoire, c'est quelque chose d'insupportable. Maintenant, Spinoza, qu'est-ce que la joie pour Spinoza ? C'est simplement une augmentation de la puissance d'agir. C'est donc un critère, je dirais, la joie, c'est pas des sourires et des rires un peu bêtes, c'est simplement de devenir plus puissant, d'avoir plus d'énergie, de devenir plus actif. La tristesse, au contraire, la déprime comme ça, c'est quand on dégonfle en quelque part, c'est s'affaiblir, c'est devenir plus passif. Donc, je pense plutôt en ces termes-là, d'énergie. Donc, peut-être parfois, il y a des émotions plus subtiles ou plus troubles et en plus de nuances qui pourraient quand même qualifier comme de la joie. C'est pas forcément on se tient tous la main et on danse dans une ronde.
Alain Guyard, depuis Périgueux.
Écoutez, depuis Périgueux, moi, si vous voulez, moi qui passe depuis quelques jours dans des expériences limites de foie gras et de magret de canard, ce que je vous dirais à propos de la joie, je crois que il y a effectivement confusion parce que notre époque elle pousse à effectivement célébrer ce qu'elle appelle la joie, ou elle pousse à célébrer l'intensification des désirs ou des passions, mais en fait tout cela, c'est ce dont Spinoza parle lorsqu'il parle de passion triste. Si vous voulez, on pourrait prendre un exemple cinéma, c'est la grande bouffe. Vous vous souvenez, avec Hugo Tognazzi,
Marco Ferreri.
Marco Ferreri, en effet. Andrea Ferreri, elle avait pris 25 kilos en 2 mois pour le film. Et alors, c'est vrai que ces types-là, là, qui sont des grands bourgeois désespérés et suicidaires, ils sont dans la consommation, ils sont dans une espèce de jubilation, ils sont dans une espèce d'accomplissement d'un désir. Mais tout ça, ça provoque quoi? Ça va d'ailleurs tous les conduire au suicide. Et c'est en fait une dépression programmée. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait donner l'impression qu'on est dans la joie, qui pourrait donner l'impression qu'on est dans la satisfaction du désir. Mais en fait, ce sont ce que Spinoza appelle des passions tristes, et qui, loin de nous permettre l'épanouissement ou l'intensité d'existence, au contraire, nous ratatinent et nous dégoûtent de vivre. Donc tout ça, il faut vraiment s'en débarrasser. Et Spinoza, effectivement, c'est le philosophe de la joie, mais tiens, presque, si vous voulez, en face de la grande bouffe, mettez le festin de Babette, vous vous souvenez?
Oui.
C'était en 88 qui était sorti ce film-là. C'est à partir d'une nouvelle de Karen Blixen. Et là, on est face à des espèces de cul serré luthérien. Et quand elle arrive, la cuisinière française, qui est une ancienne communarde, elle va, avec une grande intelligence, essayer tout doucement de doser les saveurs et les jouissances pour que peu à peu, tous ces gens qui sont hantés par l'idée du bien, ils puissent enfin petit à petit, comme ça, s'ouvrir à la jouissance et enfin se réconcilier avec le pur plaisir d'exister. Donc voilà, hein, voilà le truc, quoi. Préférer le festin de Babette à la grande bouffe, et voyez Spinoza en cuisinière française, un peu ça.
Avant d'accéder à la joie, Balthazar Thomas, il va falloir casser plusieurs illusions qui nous empêchent de connaître la joie. Intéressons-nous d'abord aux émotions. Contrairement à Descartes, Spinoza valorise les émotions. Pour lui, ce sont les émotions qui guident nos vies. Impossible pour lui d'échapper à nos émotions. Et bien connaître ces émotions, ça permet de casser les illusions sur notre existence.
Entre autres, la vie spirituelle est aussi une vie émotive. Il n'y a pas chez Spinoza une distinction entre, d'une part, on dirait les pensées qui seraient nobles, qui seraient vraies, etc., et les émotions qui seraient un espèce de sous-produits,
de
bas instincts métissés entre l'âme et le corps, dont on ne saurait que faire. Pour Spinoza, pour Descartes, le corps et l'esprit sont séparés et presque opposés. Pour Spinoza, le corps et l'esprit sont deux faces d'une même médaille qui évoluent ensemble Donc quand le corps devient plus actif, l'esprit aussi devient plus actif. Et toute pensée est en même temps une émotion. Et par ailleurs, pour Spinoza, l'émotion la plus intense, c'est la connaissance. C'est la raison, la connaissance vraie, et ce qui nous donne vraiment une véritable jouissance. Donc il y a des nuances entre les émotions, entre les passions, d'abord les passions joyeuses et tristes, et puis entre les pensées passives et les pensées actives, mais tout ça relève de l'émotion. Et bien évidemment, si on poursuit un but même très intellectuel, c'est parce que cela nous enchante, parce que cela nous titille, nous donne le frisson. Il n'y a pas du tout l'idée d'une pensée abstraite, froide, grise, au contraire.
Et nous subissons en permanence les montagnes russes de nos émotions, des émotions qui montent et descendent, de la tristesse à la joie et inversement. Que nous dit Spinoza sur ces montagnes russes émotionnelles ?
C'est que nous nous attachons aux mauvais objets. C'est nous aimons les mauvaises choses, donc nous aimons des choses inconstantes. Et donc forcément, nos émotions sont instables et tout le temps précaires. Et c'est pour ça que Spinoza nous dit il faut aimer quelque chose de permanent, d'éternel. Et donc, au final, ce que Spinoza appelle Dieu, mais qui n'est pas du tout le Dieu des religions.
Prenons l'exemple de l'amour. L'amour, c'est une émotion qui nous agite tous. Pour Spinoza, aimer, c'est ressentir une joie provoquée par une personne, une chose, une idée.
Alors pour Spinoza, l'amour, c'est l'idée, c'est une joie avec l'idée de sa cause. C'est qu'on se sent d'un coup joyeux et puis on croit que c'est causé par, je ne sais pas, cette voiture ou cette personne ou cet animal ou ce coucher de soleil. Alors c'est justement cette attribution d'une cause à la joie est souvent fausse. On se trompe souvent là-dessus.
Prenons l'exemple du flirt amoureux, du flirt d'été que vous donnez dans votre livre.
Oui, dans le flirt d'été, évidemment, de quoi tombe-t-on amoureux ? Vraiment de la personne qu'on a rencontrée sur la plage ou simplement de l'ambiance des vacances, de la beauté des paysages ? Si on avait rencontré cette même personne, je ne sais pas, dans son quartier pavillonnaire de Neuilly-sous-Bois ou de sa cité de la Courneuve, peut-être on l'aurait trouvée beaucoup moins séduisante. On tombe amoureux de ses vacances plus que de cette personne.
On se trompe de désir.
D'une certaine manière, oui. Enfin, dans ce cas-là, on se trompe simplement de la cause de la joie. On sait qu'on est joyeux. On veut absolument que cette joie continue, qu'on puisse posséder la cause de cette joie pour ne plus jamais être en manque. Mais on se trompe sur ce qui l'a causé.
Alain Guyard, Spinoza nous rappelle que nous sommes des êtres de désir. C'est une bonne nouvelle que nous délivre le philosophe hollandais.
Ah ben, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est désirant. Tant qu'il y a de l'envie, on est en vie, comme dirait l'autre.
Spinoza qui nous dit que qu'être, c'est désirer, et désirer, c'est être. Citation célèbre
oui,
de Spinoza.
Mais si vous voulez, ça retrouve un petit peu déjà les thématiques qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que le souci de Spinoza, c'est de faire en sorte que nous puissions augmenter notre puissance d'agir. Et cette puissance d'agir, c'est pas quelque chose qui est intellectuel ou qui est spéculatif. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre, j'ai envie de dire, de l'expérience concrète. C'est-à-dire que lorsque je suis porté par un désir, je dis ça, quand je suis porté par un désir, je dis pas quand je désire. Quand je suis porté par un désir, un désir ardent, moi-même, physiquement, émotivement, intellectuellement, je suis dans la pleine expansion de mon être. Alors ça, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que toute l'anthropologie de Spinoza, elle repose sur je sais pas comment vous dire moi des moments d'intensité d'existence ou des moments de vitesse d'existence et le curseur, l'aiguille qui monte hein, sur le compteur, ben c'est le désir, un être désirant quand vous faites un petit peu trop ratatiner la tête par les psychanalyses, hein. Je suis désolé pour les freudiens et les lacaniens qui nous écoutent, hein. Mais là où il y a du désir, il y a du trou, il y a du manque, il y a de l'absence, et Spinoza il dit, bon, faut arrêter un peu 5 minutes, ça. Là où il y a du désir, il n'y a pas simplement quelque chose qu'on loupe, une cible qui est loupée par la fléchette, mais là où il y a du désir, il y a au contraire un être qui est en pleine expansion de lui-même. Rien n'est plus délicieux que de désirer, parce que dans le désir, je me porte au-delà de moi-même et je me déploie. Alors c'est ça, au fond, si vous voulez, Spinoza, c'est cette idée selon laquelle, en définitive, plus je désire, plus il y a une extension de mon être, et sur tous les plans, que ce soit effectivement affectif, physique ou intellectuel.
Balthazar Thomas.
Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Le désir permet de nous réaliser.
C'est exactement ça. Quand Spinoza a dit « désirer c'est être, être c'est désirer », enfin c'est pas ça la citation exacte, il dit « je crois que le désir c'est l'essence de l'homme », ça veut dire deux choses. Nous sommes, la chose principale que nous faisons c'est désirer, mais aussi quand on désire, on se désire finalement soi-même, on veut être complètement soi-même. Donc ce n'est pas du tout un manque, c'est vraiment comme il dit l'expansion de soi, la réalisation de soi, qui nous, en tant qu'être fini, en tant que... être fragile et fini, nous ne pouvons pas faire tout seul. Donc nous avons besoin de la coopération des autres, coopération d'autres êtres humains, mais aussi d'autres choses, pour pleinement être nous-mêmes. Donc forcément, ce désir nous réunit avec les autres.
De toute façon, à quoi ça servirait? Vous l'avez dit vous-même, on a ça dans le sang. C'est héréditaire.
L'atavisme n'est jamais qu'une prédisposition aléatoire des gènes. Ce n'est pas comme si votre destin était gravé dans la pierre. Tout le monde est libre de faire ses choix.
Enfin, elle me fait part d'une opinion.
C'est vrai. Et vous croyez que tout ce qui se passe est écrit d'avance? Vous ne pensez pas que les êtres humains peuvent posséder leur libre arbitre?
Alors pourquoi je suis pas en train de faire de la poterie au Pérou? Quand on est né dans le purin, on apprend à vivre avec.
Ça laisse tout de même un large éventail de choix. Nous sommes en Amérique.
C'est ça, l'Amérique.
Un extrait de la série américaine Les Sopranos. Balthazar Thomas, nous pensons que nous sommes libres de choisir nos désirs. Et pour Spinoza, c'est une erreur qui nous empêche d'accéder à la joie.
D'une certaine manière, parce que cela nous donne un faux sentiment de puissance qui nous mène à l'impuissance quelque part. Si je crois que je peux me choisir complètement et devenir complètement un autre comme ça en claquant de la main, je vais vraiment droit dans un mur. Et je vais m'épuiser et m'effondrer.
Et pourquoi le libre-arbitre est-il une illusion pour Spinoza?
Pour beaucoup de raisons. Je dirais, même en dehors de Spinoza, que l'idée du libre-arbitre est un peu absurde, puisque ça voudrait dire qu'on puisse choisir quelque chose sans la moindre raison. Donc il n'y a pas d'intérêt de choisir. Si vous voulez, on oppose souvent le déterminisme, cette idée que chaque chose a une cause, au libre-arbitre. Mais en fait, le contraire du déterminisme, c'est l'aléatoire. Ce serait un choix totalement aléatoire. Il n'y a rien qui me contraigne à choisir quelque chose. Et donc finalement, je n'ai aucune raison de choisir une chose qu'une autre. Ensuite, chez Spinoza, le monde, quelque part, le monde est Dieu. Dieu est tout-puissant. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Et donc, chaque chose qu'on fait, on la fait aussi nécessairement. En obéissant aux lois de la nature, comme, alors Spinoza est très dur, il nous compare avec une pierre qui roule, une avalanche qui roule, et il dit, la pierre s'imagine être libre, elle s'imagine qu'elle dévale la pente d'une montagne, parce qu'elle a choisi, comme ça, un jour, qu'elle voudrait tomber. Mais nous savons très bien qu'elle tombe au cause de la loi, des lois de la physique, de la gravitation.
Dans votre ouvrage, vous donnez l'exemple de l'olivier, qui ne peut donner que des olives.
Oui, mais la différence entre les hommes et les plantes ou les pierres, c'est que nous sommes des systèmes beaucoup plus complexes. Donc, nous sommes des systèmes tellement complexes que nous pouvons faire beaucoup plus de choses que l'olivier, donc c'est moins apparent. Nous avons une telle puissance, une telle finesse, nous sommes des machines tellement riches que cela donne l'impression d'un choix alors qu'il n'y en a pas.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
L. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Nat King Cole sur France Inter.
Vous avez trompé votre épouse et la perspective d'un châtiment divin vous effraie? Utilisez Spinoza 200. Grâce à sa molécule de spinosisme actif combinée à des hormones de croissance issues de pommes d'Adam irradiées, un seul comprimé de Spinoza 200 neutralise instantanément la zone de culpabilité de votre cerveau et vous sentez que Dieu vous a créé faible et incomplet. Vous êtes tel que vous êtes, fini le libre arbitre. Fautez en toute tranquillité avec Spinoza 200. Attention, Spinoza 200 est un médicament à consommer avec modération.
Ça va pas la tête.
Pastille signée François Audouin avec la voix d'Éric Oswald. 9h41 sur France Inter et nous célébrons ce matin la joie avec Spinoza en compagnie des philosophes Balthazar Thomas et Alain Guyard et du journaliste Julien Bisson.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses! Balthazar Thomas, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Être heureux avec Spinoza. Cet extrait de Chantons sous la pluie respire pour moi l'allégresse. C'est l'idée que je me fais de l'allégresse, surtout quand on voit la chorégraphie extraordinaire de Jim Kelly et de Donald O'Connor. L'allégresse est un concept clé chez Spinoza.
Tout à fait, oui.
C'est une joie qui affecte tout le corps.
Si on pense à Singing in the Rain, c'est d'abord la légèreté, je pense. Hein, particulièrement la danse des claquettes. Et donc ça paraît presque paradoxal si on parlait du déterminisme, qu'on n'est pas libre, qu'on est déterminé, on suit un destin qui serait écrit d'avance, vraiment enchaîné. Et pourtant, nous dit Spinoza, cela nous amène la légèreté.
Alain Guyard, pour Spinoza, la joie est avant tout une sensation corporelle, totale.
Oui, si vous voulez, je crois qu'il faut revenir à ce dont on parlait juste à l'instant, c'est-à-dire il faut se débarrasser de l'idée du libre arbitre. Alors, ça veut dire quoi si j'ai pas de libre arbitre et comment je peux être joyeux si j'ai le sentiment d'être entièrement déterminé? Je voudrais prendre un exemple que j'ai vécu hier, si vous le voulez bien. Hier, j'ai fait du rafting dans la Dordogne. Alors, j'aime autant vous dire que moi, je suis une pire brêle avec un aviron quand même. J'étais vraiment tombé dans la lessiveuse. Ça a été au début très atroce. Pourquoi? Parce que justement, j'étais pris dans un ensemble de forces auxquelles je ne pouvais pas échapper. Et par conséquent, j'étais absolument pas libre de ce qui m'arrivait. Mais alors, si vous voulez, au fur et à mesure que la descente s'est faite, peu à peu, j'ai commencé à peu près à gérer la rame, là, à essayer un petit peu de jongler avec les courants, et progressivement, il y a eu une vraie jouissance. De quoi faire? De jongler avec ces forces auxquelles j'échappais pas. Donc, vous voyez, le truc était vachement intéressant parce qu'au fond, ça m'a permis de saisir un peu ce dont on parle là. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'homme libre, c'est-à-dire non déterminé. Mais il y a un homme qui peut reconnaître et connaître les forces qui le travaillent et qui ensuite peut jouer avec elles. Et c'est quand il joue avec les forces auxquelles il échappe pas qu'il en tire alors une vraie jouissance et aussi une certaine puissance. Mais voyez, il est en train de jouer avec des forces auxquelles il échappe pas. Et s'il joue avec ses forces, ça veut dire que l'homme qui jouit, l'homme qui est dans la puissance d'agir, c'est celui qui est à l'écoute de ses sensations. Parce que c'est par les sensations qu'il peut repérer, identifier et jongler avec les puissances qu'il détermine. Donc c'est ça qui est absolument fortiche, si vous voulez, dans la pensée de Spinoza. C'est que d'un côté, c'est une pensée qui est une pensée rigoureuse, mathématique, rationnelle, géométrique et tout ce que vous voulez, qui fait peur à tous les littéraires qui nous écoutent. Mais d'un autre côté, grâce à ça, on arrive à quoi ? Ben, on arrive à une philosophie qui va effectivement rendre hommage au désir, à la sensualité, à la capacité à écouter et à mobiliser les puissances qui nous travaillent. Et ça nécessite, j'ai presque envie de dire, une intelligence sensuelle. Vous voyez le truc ? Et je crois même que cette intelligence sensuelle, pour moi en tout cas, c'est l'autre nom de l'éthique. Et quand on est vraiment dans l'intelligence sensuelle et dans l'éthique, eh ben on en voit vraiment promener dans les fraises tout ce qui est de l'ordre de la morale, qui n'est pas tant une qualité intellectuelle ou une qualité de l'âme, qu'une espèce d'aveuglement ou une balourdise. Soit vous êtes un balourd et vous parlez de morale, soit vous êtes un subtil et un sensuel et vous faites de l'éthique, du spinozisme, et vous pouvez draguer comme une bête pendant que vous faites du drafting.
Balthazar Thomas.
Oui, je pense qu'en fait, l'idée du libre-arbitre nous alourdit parce que il nous mène dans la mise en cause incessante de ce qu'on a fait,
les regrets, les remords,
les regrets, ouais. Une espèce de fardeau des existences possibles ratées, alors que le déterminisme nous oblige à être nous-mêmes, nous montre bien que cela est notre vie, nous n'avons pas de choix, nous ne pouvons pas y échapper, et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre cette vie la plus intensément possible, la plus pleinement possible. Et ce qui est difficile de comprendre, c'est que le déterminisme n'empêche pas de faire des choix. On fait toujours des choix. Puisque forcément, dans chaque situation, il y a des pensées, des sensations, des choses comme ça qui se présentent à nous et qui vont faire qu'on va évoluer dans une décision ou dans un autre. Mais on accepte quelque part qu'on n'est pas le maître absolu de ce processus. On peut presque être un peu le spectateur de soi-même et voir quels sont les courants qui nous traversent, et devenir beaucoup plus fin et beaucoup plus observateur de soi-même dans la situation dans laquelle on se trouve, pour comprendre ces situations. On fait toujours des choix, mais différemment.
Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait.
Balthazar Thomas, Spinoza nous dit que l'on n'est pas soi-même quand on est triste. Pour le philosophe hollandais, la tristesse ne nous apprend rien. Pourtant, on nous répète sans cesse que la tristesse, les épreuves fortifient, endurcissent.
Oui, c'est un des aspects les plus étonnants de Spinoza, qui va totalement, contrairement à notre manière habituelle de voir, et même quelque part ça me gêne, parce qu'on croit toujours que dans la tristesse, la dépression, on touche au fond de soi-même, qu'on puise vraiment dans ce qu'on a de plus intime. Et chez Spinoza, la tristesse est une espèce de confusion. C'est une impuissance, c'est une confusion. On devient triste quand on est quelque part vaincu par une force plus grande que soi. On est vaincu par quelque chose qu'on ne comprend pas, auquel on ne peut pas réagir, et du coup qui est trop difficile à comprendre. Donc l'analyse de la tristesse, pour Spinoza, ne mène pas quelque part. En revanche, la connaissance de la joie, c'est la connaissance de ce qui nous convient, de ce qui se compose avec nous, de ce qui nous rend plus fort et plus complet. Pour Spinoza, cela on peut comprendre, et peut-être de fil en aiguille, en comprenant ses joies, on peut finir aussi par comprendre ses tristesses et se dire quelles sont ces zones d'ombre, mais qui ne sont pas connaissances en tant que telles. C'est un espèce de résidu, la tristesse est un résidu d'irrationnel dans la vie, d'inexplicable, qui peut peut-être être dépeint ou qui peut être exprimé peut-être par la musique ou la peinture, mais qui ne peut pas être compris rationnellement.
Alain Guyard, vous partagez l'idée de Spinoza selon laquelle la mélancolie rend faible et bête ?
À certains égards, ouais. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle mélancolie, hein. Mais au risque d'être un peu provocateur, mais des fois, faut un peu secouer le cocotier, notamment par rapport à ceux qui sont complaisants avec la souffrance ou le condouloir ou que sais-je encore. J'ai envie de dire que la dépression, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la dépression, c'est une moindre existence. Soit vous existez intensément, vous existez dans la joie et dans la connaissance des causes qui provoquent votre joie, et plus vous connaissez les causes qui provoquent votre joie, plus vous êtes dans la joie, soit il y a moins de joie. Donc j'ai presque envie de dire la tristesse ou la dépression, ça n'existe pas, c'est plutôt une joie qui s'amenuise. Alors notre erreur, c'est quoi? C'est peut-être d'imaginer que la dépression, elle existe en soi. C'est d'imaginer que la tristesse, elle existe en soi. Et Spinoza, il dit, mais non, la tristesse, elle n'existe pas en soi. Il n'existe que la joie. Et des fois, effectivement, ça patouille un peu, puis vous êtes sur le mauvais braquet. Mais arrêtez de considérer que l'existence peut être rapportée à, par exemple, de la tristesse, parce que l'existence, c'est de la joie. Je me souviens d'une... J'avais bossé une fois... Je vous avais dit la semaine dernière que je fais des petites virées comme ça pour faire de la philosophie en prison. J'en fais aussi un petit peu en psychiatrie, et je me souviens d'une accorte gonzesse comme ça qui était peut-être un petit peu maigroulette, parce qu'elle était infiniment fière au fond, dès qu'elle frappait aux portes des psychiatres ou des psychanalystes, elle était infiniment fière de se présenter comme étant une anorexique. Et en fait, si vous voulez, elle se maintenait dans cette identité-là jusqu'au jour où elle a rencontré une psychothérapeute qui était assez fufute et qui lui a dit : « Mais ça, c'est pas votre identité. » Parce que vous définissez comment, anorexique, comme étant cette jeune fille privée d'appétit. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir quel est l'appétit qui porte cette jeune fille, vers quoi elle se dirige, vers quoi elle est portée lorsqu'elle connaît des enthousiasmes. Ça assez chouette. Hein.
Balthazar Thomas, comment transformer la tristesse en joie? C'est plus facile à dire qu'à faire quand on est malade, frappé par un deuil ou une rupture amoureuse.
Alors ça, c'est où Spinoza devient difficile, où on a l'impression parfois qu'il est peut-être trop optimiste, une espèce d'optimisme rationaliste qui croit dans le progrès de la science et de la connaissance. Spinoza nous affirme que en comprenant les causes de n'importe quelle passion, on peut la transformer en action. Mais on a déjà vu le problème, c'est qu'on ne comprend pas vraiment les causes de la tristesse. Donc il y a plusieurs mécanismes qui jouent en même temps. Le premier, c'est effectivement d'essayer de comprendre les causes non seulement de ces tristesses, mais aussi de ces joies, et de transformer ces joies passives en joies actives. Hein. Parce que la joie peut être une passion, donc on a plus d'énergie à cause de cette joie, mais en même temps, c'est une joie passive, elle nous échappe, nous sommes quelque part le jouet de ces sentiments sans en être les maîtres. Donc la première chose, c'est de comprendre ces joies passives et d'essayer de les transformer en action et d'en faire des joies actives, des choses qu'on peut maîtriser soi-même.
Il faudra bien sûr consacrer d'autres émissions à la question du mal ou du panthéisme chez Spinoza. Vous reviendrez, hein, Balthazar Thomas et Alain Guyard.
Avec grand plaisir.
N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
Pardonne-moi si mes yeux ne te lâchent pas. Merci mon Dieu de ta...
Brigitte, hier encore.
Ça va pas la tête?
C'est quoi son problème?
Ali Rebéi.
Il faut l'enfermer, il a les fils qui se touchent.
Ça va pas la tête? Sur France Inter.
9h55 sur France Inter et on s'intéresse encore quelques minutes à la joie chez Spinoza. Avec vous, Julien Bisson, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Lire. Spinoza vous a inspiré deux œuvres. D'abord, un chant de Noël de Dickens, publié à Londres en 1843. Un chant de Noël et son célèbre personnage, Scrooge.
Oui, un chant de Noël, si vous n'avez pas lu le livre, vous avez sans doute vu les adaptations à l'écran, que ce soit sous la forme de film ou de dessin animé. Un chant de Noël, donc, c'est l'histoire d'un vieil usurier, cupide et acariâtre, Ebenezer Scrooge, qui va recevoir la visite, la veille de Noël, de trois fantômes. Trois fantômes qui sont les fantômes des Noëls passés, présents et à venir. Et chacun de ces fantômes va lui révéler ce qu'il avait un peu oublié sur lui-même. Le fantôme du passé va lui révéler l'amour et l'amitié de ses proches, perdus en raison de son avarice. Le fantôme du présent va lui montrer la misère dans laquelle vit son employé et sa famille. Et le fantôme de l'avenir va lui montrer la mort solitaire qui le guette, loin des hommes et loin de leur société. Et de cette nuit, Ebenezer Scrooge va avoir une nouvelle connaissance de lui-même. Et il va se réveiller le matin pour se rendre compte que sa cupidité n'est qu'une passion triste, comme on en a parlé. Une passion triste qui ne mène à aucune joie. Et la connaissance, cette connaissance de soi nouvelle va surtout lui montrer que le désir et la joie peuvent revenir en ce matin de Noël, en s'ouvrant aux autres et en essayant de dispenser un peu de joie et de bonne humeur à ses proches. Et il s'écrit cela au moment de sortir dans les rues de Londres. Il écrit, Dickens écrit ceci: « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. » On n'est pas très loin de Hakuna Matata.
Exactement. Une autre œuvre vous a inspiré, une lecture spinozienne, Servitude humaine, du romancier britannique Somerset Maugham, Maugham, hein, pour les initiés
oui,
comme
vous. Oui, alors, on connaît souvent les nouvelles pour dames de Somerset Maugham, comme
les trois grosses dames d'Antibes, par exemple.
J'appelle à une réédition de Servitude humaine, qui est le roman, le chef-d'œuvre de Somerset Maugham, et qui mériterait aujourd'hui d'avoir une réédition. Servitude humaine, c'est un roman donc qui tire son titre de Spinoza, puisque Servitude humaine, c'est le titre du livre 4 de l'éthique. Et dans ce roman, ce qui est très autobiographique, Somerset Maugham nous raconte l'histoire d'un homme, Philippe Carré, un orphelin désireux de mener sa vie, de trouver l'amour, de développer des aventures, mais qui va longtemps aller de déception en déconvenue, notamment dans sa vie amoureuse, puisqu'il va mener une relation très masochiste avec une certaine Mildred, une serveuse incendiaire qui ne va jamais réussir à le rendre heureux. Et après tant de malheurs, Carré va finalement apprendre à se libérer justement aussi de ses passions tristes, à trouver la joie, à se rendre maître de lui-même. Et il nous donne ainsi, Somerset Maugham, une espèce de philosophie sur la façon dont on doit mener sa vie et arriver à accepter les désirs qui peuvent nous porter. Il écrit ceci à la fin: le modèle le plus simple, celui où un homme naît, travaille, se marie, a des enfants et meurt, était aussi le plus parfait.
Servitude humaine à lire ou à relire, mais ce serait pas mal si 10-18 ou le livre de poche rééditait ce grand livre de Somerset Maugham. Il coûte une fortune sur Amazon ou sur Fnac.com.
Aujourd'hui, ce qui peut malheureusement, en tout cas, tenir quelques lecteurs éloignés de ce livre qui
essentiel.
Mériterait d'être redécouvert.
Merci beaucoup, Balthazar Thomas. Être heureux avec Spinoza est publié chez Erol. Merci Alain Guyard depuis France Bleu Périgueux. Nous remercions nos camarades Merci. De France Bleu Périgord. 33 leçons de philosophie pour et par les mauvais garçons est édité par le Dilettante. Merci d'être aussi nombreux à nous podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter, où vous pourrez retrouver les références citées. Ce matin à la technique, il y avait Alain Caillé. Bonjour Mishka Sayas.
Bonjour Ali.
Vous allez bien?
Bah, très bien, et vous-même?
Bah oui, dans un instant, Very Good Trip au menu, toujours les crooners.
Toujours les crooners, mais ça va être plutôt la soul aux yeux bleus. Vous allez entendre ce que c'est.
À tout à l'heure.
Cet été sur France Inter, du lundi au vendredi soir, à partir de 21h,
c'est extra.
Avec Mélanie Boer.
1930-2030, du road trip musical, de l'imaginaire pour vos oreilles. Rêvons ensemble le monde et sa musique.
C'est extra. Ce soir,
sur France Inter,
à partir de 21h.
Balthazar Thomas, un tweet rapide, Anne Fraissard qui nous demande par quel livre commencer Spinoza.
Alors,
à part le vôtre, très vite.
Beaucoup de gens pensent par le mien. Je dirais sinon peut-être le traité théologico-politique. qui est un livre qui parle de politique, de religion, mais aussi qui expose la philosophie de Spinoza et qui est très d'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui.
Merci Balthazar Thomas.